À l'écoute de RFI, il est 14h en temps universel, 16h à Paris, 9h à New York. Et à toutes les heures, vous avez Olivier Sherman. Bonjour.
Bonjour Pascal Paradou, bonjour à toutes et à tous. Aucun survivant parmi les 242 passagers membres d'équipage de l'avion de la compagnie Air India à destination de Londres. Il s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad dans le nord-ouest de l'Inde. Une cure d'austérité sans précédent au Vietnam, un nouveau découpage administratif réduisant de moitié le nombre de provinces va entraîner la suppression d'environ 80 000 postes supplémentaires. En France, la taxe Zucman sur les plus grandes fortunes examinée au Sénat, cet impôt à destination des ultra-riches adopté récemment à l'Assemblée nationale, a peu de chances tout de même de voir le jour. Enfin, la suite de la conférence des Nations Unies qui se tient à Nice. Gros plan aujourd'hui sur les fermes aquacoles, ces grands élevages en mer, ce qui a des conséquences importantes pour l'environnement et les populations. Une catastrophe aérienne dans le nord-ouest de l'Inde, près de l'aéroport d'Ahmedabad, peu après son décollage pour Londres. À son bord, 242 personnes, dont 230 passagers et 12 membres d'équipage. Il n'y a, selon les autorités, aucun survivant. Et le nombre de victimes pourrait être plus élevé, car l'avion s'est écrasé sur une zone résidentielle. Nicolas Feldman, bonjour.
Bonjour Olivier.
L'avion était donc un Boeing qui appartenait à la compagnie indienne Air India.
Oui, Air India, ancienne compagnie nationale indienne rachetée en 2022 par le groupe Tata avec une ambition: moderniser sa flotte et ainsi répondre à la forte demande du trafic aérien. En deux ans, ce sont pas moins de 570 appareils qui ont été commandés. Alors Olivier, il est évidemment encore trop tôt pour connaître les raisons du crash, mais vous le disiez, cet avion, c'est un Boeing 787, un appareil baptisé le Dreamliner, utilisé par 80 compagnies dans le monde et qui est l'un des fleurons de l'avionneur américain. Plus grand, plus économe en carburant que ses concurrents, ce modèle, il a connu un grand succès dès son lancement en 2011. Sauf que ces dernières années, eh bien, il multiplie les incidents. De 2020 à 2022, sa production a dû être suspendue pour des défauts de fuselage sur certains appareils. Pour Boeing, ce drame, en tout cas, il s'inscrit dans une série plus large d'accidents. Entre 2018 et 2020, ce sont trois appareils des 737 MAX qui se sont crashés. Dans un communiqué, l'avionneur américain se dit cet après-midi prêt à aider la compagnie Air India. À l'ouverture à la bourse de Wall Street, l'action de Boeing vient en tout cas de perdre 5%.
Merci Nicolas Feldman. Et j'apprends à l'instant qu'un survivant aurait été retrouvé selon la police locale. C'est ce que vient de nous dire à l'instant notre correspondante à New Delhi, Léa Ojal. Cette tragédie d'Ahmedabad nous a tous abasourdis et attristés. Déclaration du Premier ministre indien Narendra Modi. Cela nous brise le cœur. Au-delà des mots, 169 Indiens étaient à bord. Le roi Charles III se dit extrêmement choqué par cette catastrophe. Il y avait 53 Britanniques dans l'avion. Enfin, le Premier ministre portugais se dit profondément consterné. 7 ressortissants portugais étaient dans l'appareil. Les réseaux de téléphonie et Internet sont désormais coupés dans l'ensemble de la bande de Gaza, et ce en raison d'une attaque sur la dernière ligne principale de fibre optique encore en service dans ce territoire. L'armée israélienne vient aussi de sommer des habitants de la ville de Gaza d'en évacuer divers secteurs qu'elle a présentés comme des zones de combat dans le nord du territoire palestinien. La défense civile palestinienne annonce, elle, la mort de 22 personnes dans des attaques israéliennes, dont 16 tuées alors qu'elles attendaient des distributions d'aide alimentaire. Le dossier du nucléaire, l'Iran fait monter la tension avant les pourparlers avec les États-Unis. L'Iran annonce qu'il va construire un nouveau site d'enrichissement et augmenter sa production d'uranium. Et ce, après l'adoption par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, d'une résolution condamnant le pays pour non-respect de ses obligations nucléaires. Ces annonces surviennent dans un climat déjà très crispé. Hier, les États-Unis ont annoncé avoir déplacé une partie de leur personnel au Moyen-Orient, après que Téhéran a menacé de frapper leur base militaire. Une tension donc avant les nouveaux pourparlers déjà prévus à Oman ce dimanche entre les États-Unis et l'Iran. Au Vietnam, l'État impose une cure d'austérité sans précédent à son administration, qui n'est pas sans rappeler la vaste offensive lancée aux États-Unis par le président Trump. Dirigée depuis la fin des années 70 par le Parti communiste, c'est un tournant majeur, car jusqu'à présent, être fonctionnaire signifiait bénéficier d'un emploi à vie. Mais la croissance économique est aujourd'hui menacée par l'offensive douanière de Donald Trump, et les dirigeants s'y préparent. Les précisions de Dieke Schmidt.
Tholam, l'homme fort du pays, avait prévenu en février dernier « Les agences de l'État ne doivent pas devenir des planques pour des fonctionnaires médiocres ». Et le chef du parti unique avait solennellement promis que l'État allait se séparer des tumeurs pour avoir un corps fort et en bonne santé. Depuis, 23 000 fonctionnaires ont perdu leur poste. Le nombre de ministères et agences gouvernementales a été ramené de 30 à 22. Aujourd'hui, cette saignée continue. L'Assemblée nationale a massivement approuvé de nouvelles coupes drastiques. Le nombre de provinces sera réduit de moitié, une réforme qui entraînera la suppression de quelques 80 000 postes supplémentaires. Une révolution dans un pays où les dépenses courantes et les salaires des fonctionnaires représentent actuellement 70 % du budget national. Mais la menace de Donald Trump d'imposer une surtaxe de 46 % sur les produits vietnamiens donne des sueurs froides aux dirigeants. La cure d'austérité infligée à l'administration est une manière d'y répondre.
En France, la taxe Zuckman sur les grandes fortunes est examinée au Sénat ce jeudi. Sauf énorme surprise, le Sénat, dominé par la droite, devrait rejeter l'instauration de cet impôt plancher à destination des ultra-riches, adopté pourtant à l'Assemblée nationale au mois de février. Les explications d'Anishka Kumor.
La proposition de loi, inspirée par les travaux de l'économiste Gabriel Zuckman, propose d'instaurer un impôt plancher sur le patrimoine des 0,01% des contribuables les plus aisés en France. Et ce, afin de s'assurer qu'ils payent au moins 2% de leur fortune en impôts. Selon cet économiste, l'ensemble des Français acquittent environ 50% de leurs revenus en impôts et cotisations sociales, tout prélèvement compris. Mais ce chiffre tombe à seulement 27% pour les milliardaires. C'est une violation du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, martèle Gabriel Zuckman, qui publie, avec Olivier Blanchard et Jean Pisani-Ferry, une tribune au journal Le Monde. Certes, il ne faut pas minimiser le risque d'exil fiscal, mais il pourrait s'avérer faible, disent ces économistes. Les recettes de cette taxe seraient entre 15 et 20 milliards d'euros, assure Gabriel Zuckman, argument de taille pour le gouvernement Bayrou qui cherche 40 milliards d'euros d'économies pour boucler le budget 2026.
En France, hommage et recueillement après le meurtre de la surveillante d'un collège. Tous les élèves de France ont observé une minute de silence à midi en mémoire de cette surveillante mortellement poignardée mardi. Le meurtrier est un élève de 14 ans dont la garde à vue doit se terminer dans la journée. Le parquet a requis ce matin l'inculpation de l'adolescent pour meurtre d'une personne chargée de mission de service public. Son placement en détention provisoire a également été requis. Mineur, il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Presque tous les bars et les dorades consommés en Europe proviennent désormais de fermes aquacoles, d'immenses élevages en mer. Mais pour nourrir ces poissons, ce sont en grande partie des farines et des huiles de poissons sauvages provenant d'Afrique qui sont utilisées. Des farines fabriquées avec des sardinelles, des chinchards, des maquereaux pêchés en immense quantité au large des côtes ouest et sud-africaines, au détriment des populations locales. C'est ce que dénonce Natasha Hurley, directrice des programmes de l'ONG Food Rise, qui publie un rapport à l'occasion de l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur l'océan qui se tient actuellement à Nice.
Le secteur de l'aquaculture se présente toujours comme une solution face à l'insécurité alimentaire, mais ça n'est pas vrai. L'élevage de bars et de dorades nourrit actuellement 33 millions de personnes dans le monde. Mais si on arrêtait ces élevages, on pourrait nourrir plus d'un quart de personnes en plus, ou on pourrait laisser 300 000 tonnes de poissons dans l'océan où ils jouent un rôle important pour les écosystèmes au lieu de les transformer en farine. Récemment, le gouvernement grec a mis en place des qui permettrait d'augmenter fortement le nombre de fermes aquacoles dans le pays, qui sont en réalité des usines flottantes. Dans les années qui viennent, il pourrait donc y avoir 24 fois plus d'élevage de bars et de dorades en Grèce. Et ça nous inquiète, car l'Afrique de l'Ouest voit ses populations de poissons sauvages décliner de manière rapide et insoutenable.
Natasha Hurley, directrice des programmes de l'ONG Food Rise, interrogée par Jeanne Richard. On reste à Nice pour cette conférence des Nations Unies sur l'océan. Et on retrouve Anne-Cécile Bras. Bonjour Anne-Cécile.
Bonjour Olivier.
Alors racontez-nous tout votre programme aujourd'hui.
Ben écoutez, je peux vous dire que tous nos invités hochaient la tête en écoutant le témoignage que vous venez de diffuser, parce que nous allons parler de cela, ce que les pays du Sud peuvent attendre de cette conférence, et il y a beaucoup d'attentes ici à Nice.
Alors, excellente émission.